CLES, c'est le sport, un vendredi par mois, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver sur Radio Campus Paris pour cette première émission de l'année 2025 dans CLES. On est très motivés pour vous faire passer une super heure en notre compagnie pour parler de sport. Et ce soir, il y a du monde autour de la table, à commencer par Ninon. Bonsoir Ninon.
Salut à tous.
On a également Antoine qui va faire le jeu, comme d'hab, trop fort.
Salut tout le monde, on se retrouve à la fin.
Et Thomas, comment ça va Thomas?
Salut tout le monde, ça va bien et toi?
Bah ça va, ça va. Et on a ramené l'expert de rugby, l'énorme, Karl, comment va?
Énorme, bonsoir tout le monde.
Et ce soir on va avoir une invitée, on va vous la présenter dans quelques secondes. Donc voilà les amis, ce soir une heure ensemble, on va consacrer une bonne partie de notre émission à la boxe française. Voilà, on a une championne de France qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. On parlera des actus récentes également dans le monde du sport. On fera un débat autour de la formule de la Ligue des Champions en deuxième partie d'émission. Et bien évidemment, donc on finira avec notre grand jeu, vous en avez l'habitude, sur CLES, sur Radio Campus Paris. Alors les amis, sans plus tarder, on va faire un petit tour un peu de l'actualité de ces dernières heures et de ces derniers jours. Alors déjà, en ce moment, il y a les championnats du monde de ski. Hier, il y avait le Super G Dames avec le grand retour de Madame Lindsay Vonn après plusieurs années d'absence. Mais l'exploit n'a pas eu lieu. Hein, auteur de 82 victoires en Coupe du Monde, elle a enfourché malheureusement pour elle une porte au bout de 28 secondes. C'est Stéphanie Vénier, l'Autrichienne, qui s'impose. La première Française, Laura Gaucher, arrive seulement à la 13e position. Et ce matin, c'était le Super G masculin et c'est Marc Odermatt qui s'est imposé, l'Autrichien, pour remporter son premier trophée dans cette discipline. Il vient vraiment parachever son œuvre absolument incroyable. En NBA, on a également eu des petites dingueries ces derniers jours avec la folie des trades. On a eu, j'ai vu tout à l'heure passer le chiffre, 63 joueurs échangés, c'est un record en NBA, ouais, avec notamment Jimmy Butler qui est parti à Golden State, Kyle Kuzma à Milwaukee, mais on a eu la grosse dinguerie dimanche dernier, Luka Doncic, la star des Dallas Mavericks, qui a été échangé contre Anthony Davis. On voit notre nouveau Real, Anas, j'en profite pour le saluer, qui est fan de Dallas, qui est encore dégoûté, Luka Doncic qui va aux Lakers en échange du pivot, enfin de l'ailier fort Anthony Davis. Thomas, toi je sais que tu suis un peu la NBA, comment t'as accueilli la nouvelle?
Très surpris, dimanche matin je me réveille, je vois ça et une incompréhension, parce que Dallas, une stratégie vraiment à court terme, d'échanger comme ça leur meilleur joueur, Doncic, donc au final je trouve que c'est plutôt les Lakers qui gagnent au change sur le long terme. Donc franchement surpris, agréablement surpris.
Non, c'est vrai que c'est dingue. Moi je pense que, enfin en tout cas j'avais pas vu, enfin personne n'avait vu venir le truc, même les joueurs concernés. En fait c'est ça la plus grosse dingue.
Même eux, je crois que personne n'était au courant dans le monde du basket et c'est les très 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 riches qui ont pris des décisions entre eux.
Ouais. Mais surtout c'est très cocasse parce que disait Luka Doncic que je crois 3 ou 4 jours avant, il venait d'acheter une maison à 15 millions de dollars. Donc, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Peut-être qu'il va louer à Davis. On va parler ici un peu rugby, hein, parce que tu n'es pas venu pour rien, mon Karl. La semaine dernière, une belle victoire, 43-0, face aux Gallois pour nos Bleus. Bah, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu étais au stade. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Écoute, assez mitigé. Une première mi-temps où j'ai trouvé les Bleus emballants. 10 premières minutes accrochées où le Pays de Galles a fait face, a tenu tête 10 minutes. Mais en fait, après, ils ont totalement lâché face à la puissance du pack avant des Bleus. Et une deuxième mi-temps où il n'y a pas grand-chose à retenir finalement. Parce que Fabien Galthié a fait tourner très rapidement. Dès la 50e minute, il a fait 6 changements en sortant notamment Antoine Dupont et les 5 de devant. Donc, pas beaucoup d'enseignements à tirer de ce premier match.
L'adversité était vraiment faible. Pour toi, il n'y a rien à tirer globalement.
Le Pays de Galles de Gatland, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très faible. Je ne vois pas comment ils peuvent échapper à une deuxième cuillère de bois consécutive. C'est-à-dire dernier du 6 Nations. Et ça ne s'est pas arrivé depuis très, très longtemps.
Alors, demain, en plus de nos Bleus, on voit le retour de Damien Penaud, qui était forfait pour le premier match. Donc demain déplacement à Twickenham pour le crunch, 17h45 face aux Anglais. Est-ce que concrètement, comment tu vois ce match? Est-ce que on est vraiment en confiance parce que les Anglais, ils ont fait quand même une belle prestation, au moins 60 belles premières minutes face aux Irlandais? Comment tu le sens?
Je pense que ce qui fait la différence entre les deux équipes aujourd'hui, c'est le banc. L'équipe de France a un banc, les finisseurs, comme les appelle Fabien Galthié, qui sont vraiment très très supérieurs au banc, enfin aux remplaçants anglais. Moi, ce qui m'intéresse demain, ça va être de voir le retour de Jalibert aussi, parce qu'on parle de Penaud, mais Jalibert, ça a beaucoup fait jaser, parce que il a pas eu une histoire facile avec les Bleus. Ntamack qui a pris un rouge la semaine dernière, c'est l'occasion pour Jalibert de revenir et de voir son association avec avec Dupont en charnière. Donc, comment je vois les matchs? Je vois une première mi-temps assez accrochée. Je vois pas la France creuser l'écart. Par contre, en deuxième mi-temps, je vois les Bleus dérouler. Et
donc avec le banc plus sur la fin.
Ouais, et avec un bonus offensif largement. Ouais.
On fait une prédiction du score exact là. Si c'est bon, wow. Je te paye ta graille.
Ah ouais. Combien je vois un 30-15.
Ok. Ouais, donc assez serré quand même. On va pas les exploser. Comme il y a. Non, c'était quoi? Il y a deux ans, le 53-13.
Oui, c'était à Twickenham. Mais après c'est très rare. Déjà, que les Bleus gagnent à Twickenham, c'est très rare. Alors, 30-15, c'est vraiment un beau score, quoi. Une belle victoire.
Ouais. Ok, donc les gars, on va continuer avec la Coupe de France. On a eu quand même des surprises à tout va. Voilà, les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. On a 4 équipes de Ligue 1, le PSG. mais après, il n'y a pas de grosse écurie. On a Angers, Brest et Reims. Après, on a Guingamp et Dunkerque, deux clubs de Ligue 2. Et après, on a l'AS Cannes et Saint-Brieuc, des équipes de National 2. Toi, Thomas, je sais que tu suis à fond le foot et tout. Et comment t'as vécu notamment la défaite de Nice face à Saint-Brieuc? Est-ce que c'est une faute professionnelle pour toi?
Surpris. Surpris. En Ligue Europa,
dramatique.
Donc, pour moi, catastrophique. On peut aussi parler de Lille qui sont fait sortir au penalty.
Scénario de dingue.
Scénario de dingue, parce qu'ils se font égaliser à la toute fin. Ouais. Mais je trouve aussi, parce qu'il y en a qui dédramatisent en disant oui, mais ils jouent la Ligue des Champions, mais pour moi, leur enjeu, c'est plus la Coupe de France. Le trophée qu'ils peuvent aller chercher, c'est la Coupe de France. Enfin, qu'ils peuvent, je mets bien des guillemets, mais le plus probable, on sait que le championnat, c'est le Paris Saint-Germain qui va le prendre. Donc, il leur restait la Coupe de France. Là, il n'y a plus de surprise.
Donc là, concrètement, après une question, les amis, c'est les quarts de finale, ça fait donc le Stade Briochin, Saint-Brieuc recevra le PSG, Brest Dunkerque, Angers-Reims et Cannes-Guingamp. Comment le PSG peut échapper au titre? Ça paraît impossible.
Là, ça serait une faute professionnelle.
Ouais, ça paraît très.
Le seul adversaire, entre guillemets, c'est l'adversaire de Ligue des Champions, Brest.
Ouais, c'est ça. Les Parisiens retrouveront dès mardi. C'est ça, mardi et après le 19.
Sinon,
je vois pas d'autres possibilités. Ça va être compliqué pour les autres. On va terminer ce petit récap d'actu avec la première demi-finale de grand match pour Alexis Lebrun, en tennis de table, qui égale la meilleure performance de son frère Félix dans un tournoi majeur. Le Montpellierain s'est imposé ce vendredi face à l'Allemand Dang Qiu, numéro 10 mondial, 4-7-2 à Singapour. Et sa demi-finale sera demain à 11h45. Voilà pour les actualités, on va passer directement à l'interview. Alors ce soir, on reçoit Maïmara Lawson Boumana. Salut Maïmara, comment tu vas?
Ça va très bien.
Ça fait plaisir, merci d'avoir voulu nous rejoindre pour cette émission. Alors je me permets de te présenter rapidement pour nos auditrices et nos auditeurs. Tu as 25 ans, tu es sportif de haut niveau en savate, donc tu nous expliqueras un peu plus tard ce que c'est de la boxe française, on peut dire ça. Et tu es avec nous ce soir, c'est pour illustrer également le principe de notre émission, c'est de mettre en lumière des sports sous-médiatisés et donner la parole à tous les sportifs et les sportives. Donc en premier lieu, j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi consiste la boxe française et plus particulièrement la savate et comment tu différencies l'assaut du combat, comment fonctionnent à peu près ces compétitions, un peu raconte-nous tout ça.
Alors, boxe française et savate, en fait c'est la même chose, il y a eu des noms un petit peu qui se sont chevauchés lors de la création du sport dans les années 1800, un truc comme ça. Mais en vrai, savate, ça vient vraiment de la chaussure, puisque c'est en gros la boxe qui s'est voulue moderne à l'époque, puisqu'on a commencé à utiliser les jambes en mettant des chaussures. Et c'était beaucoup plus pratiqué pour le self-défense, en tout cas sur une certaine époque où ça a pris beaucoup, où il y a eu beaucoup plus de licenciés d'un coup. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de savate. Mais savate et boxe française, c'est vraiment le même sport. D'ailleurs, la fédération aujourd'hui, elle s'appelle Fédération française, ça va de boxe française.
Okay. Voilà. La totale.
Tout ça,
ils ont tout. Ils n'ont pas voulu faire de choix.
Voilà. Et ensuite, il y a des disciplines associées du coup à la savate boxe française. Donc la canne de combat qui a été liée, puisque pareil, c'était du self-défense dans la rue. Donc tu devais te défendre avec un bâton, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, tu as la canne de combat. Donc c'est vraiment... Il y a donc la savate défense, canne de combat. Et ensuite, il y a on va dire une pratique un peu plus ce qu'on pas normal, mais en tout cas ce qu'on entend quand on parle de boxe vraiment, qui va être du coup un sport de percussion avec donc les poings et les jambes, mais alors pas toute la jambe, contrairement au kickboxing qu'on connaît ou au Muay Thai, okay. où on a le droit au genou, au tibia. On doit vraiment frapper d'une certaine manière, c'est-à-dire que la jambe doit être armée, il faut plier, déplier à chaque coup de jambe, enfin coup de pied plutôt, et il faut que ce soit vraiment la partie de la chaussure qui frappe. On peut vraiment pas frapper avec le tibia, sinon on se prend des avertissements, etc. Et ensuite il y a la grosse différence assaut et combat. Donc assaut, c'est de la technique, virtuosité, etc. On va vraiment donner les points lors de la rencontre à la personne qui a fait le plus preuve de plus de technique, de virtuosité et qui a touché le plus de fois. Alors que le combat, bah, comme pour la boxe, comme on l'entend de manière plus commune, bah, on recherche l'efficacité, le chaos. Et donc, c'est la personne qui s'est le plus rapprochée, on va dire, de cet objectif qui va gagner une rencontre s'il n'y a pas de chaos avant la fin du temps imparti.
Alors aujourd'hui, si on se réfère à ton palmarès, tu cumules déjà 3 titres de championne de France en assaut, 2 titres de championne d'Europe et 1 titre de championne du monde. C'est quand même la classe. Bravo déjà.
Merci.
Toi, alors donc à 25 ans, que dire de cette trajectoire sportive et déjà, enfin raconte-nous un peu comment tu as découvert la boxe et ton évolution au fur et à mesure des années pour arriver à ces résultats quand même incroyables.
Bah franchement, j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie être championne de quoi que ce soit en sport. Après, j'ai toujours aimé le sport depuis que je suis petite et tout. J'en ai toujours fait beaucoup. Mon père insistait pour que, voilà, tous les ans, il y a un sport, minimum un. Donc, j'ai toujours été sportive. J'ai fait des trucs à droite, à gauche. Et en fait, c'est après le collège. J'ai eu un collège un peu difficile parce que je me fritais tout le temps avec une meuf et ça a été... Et je crois que ça a un peu, voilà, ça a déclenché le truc. Et à partir de là, ouais, j'ai voulu faire de la boxe en arrivant au lycée. Okay. Et mon père connaissait un... Voilà, on lui avait parlé d'un club de boxe qui était très bien pour les jeunes. Et donc, c'est une très bonne école. C'est vraiment un très vieux club de savates qui date d'il y a très longtemps, qui s'est quand même modernisé. Et donc, aujourd'hui... Bah, d'ailleurs, c'est eux qui vont... C'est le club d'origine d'Alexis Nicolas, si vous suivez un petit peu tout ce qui est kickboxing et tout. C'est le premier Français à avoir gagné la ceinture du ONE Championship. Donc, c'est quand même un truc assez... c'est énorme.
Stylé. La classe.
Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé...
Et donc là, t'avais quel âge à peu près ?
Je pense, j'avais 15 ans. 14-15 ans.
T'as commencé assez tard quand même.
Ouais, franchement, assez tard par rapport à ce qu'on voit en compétition. On a plein, voilà, c'est des enfants d'entraîneurs, trucs comme ça, et ils sont.
Ils ont baigné la dent tout petit.
C'est ça. Ouais. Après, il y en a aussi qui commencent sur le tard, mais c'est vrai que c'est plus rare. Okay. Et je pense que c'est vraiment à la fac en fait que je me suis remise vraiment à la boxe, puisque j'en ai fait un peu ado. Et puis, j'ai un peu laissé. Mais je pense comme tous les sports qu'on fait jeunes, on les délaisse un peu. Ouais. Puis en fait, on revient. Et comme j'avais des facilités, j'avais fait du kung-fu petite et tout, en fait, ça allait très vite. Et d'un coup, après l'année Covid, en fait, il n'y avait personne en compète. Mais genre, vraiment, il n'y avait personne. Je suis arrivée en finale France, comme ça. Je n'ai rien fait. Ah. Et j'étais genre... Ah ouais, ok. Donc, il va falloir gérer. Et en fait, la meuf en face, bah, pareil que moi, elle était nulle. C'est horrible de dire ça, pardon, mais elle était pas, non, elle était pas au niveau. Et du coup, je suis arrivée en équipe de France pour la première fois, mais sur un braquage.
C'est dingue,
ouais,
c'est
vraiment un braquage de fou.
Bon, bah, je te félicite pas en fait.
Ouais, non, pour celui-ci, c'était pas ouf. Et puis.
Entre temps, t'as gagné au moins 6 autres titres, donc.
Oui, voilà. Non, mais depuis, ensuite, il y a une évolution. Une pression. Ouais. Et du coup, bah, il y a un moment où tu te dis, bah.
Et de conserver ces titres dans les catégories, comment tu gérais ce stress ? Est-ce que t'avais une pression supplémentaire ou pas ?
Bah, disons que. Il y a une pression déjà parce que t'as vraiment qu'une chance par an.
Il ouais, faut pas se rater, vraiment... c'est le jour J.
Ouais, voilà. En fait, il n'y a pas de... Comment dire ? C'est pas un sport où il y a... Enfin, on est peu licenciés. Il y a à chaque fois un championnat de France par an, un seul. Enfin, et ensuite, en plus de ça, les mondiaux et les Europes, c'est même pas tous les ans. Donc, c'est-à-dire c'est une fois sur deux, l'un et l'autre. Donc, vraiment, c'est un sport où on est peu. Donc, forcément, bon. Après, du coup, vous savez qu'il y a moins de concurrence. Moi, je pense que je m'entraîne beaucoup moins qu'une judokate qui fait même pas championne de France, qui est peut-être juste championne régionale. Hein. Mais... Bon, ça reste quand même un quotidien assez intense. Et d'un coup, ouais, bah voilà, tu dois te... Enfin, en fait, ouais, on va dire que la pression, c'est vraiment plus le fait que bah, tu arranges et organises toute ta vie pour être au top le jour J pendant 10 minutes.
Ouais, c'est dingue.
Donc ça, c'est... Mais bon, ça, c'est commun à tous les sports, au final.
Et comment tu qualifies ton style en boxe ? plus attendre l'adversaire ou t'es plus offensive?
Je sais pas, en vrai ça dépend de fou, parce que moi dans ma catégorie de poids, donc là en ce moment je suis en 70 et, et j'ai été beaucoup en 75, donc ça veut dire entre 70 et 75 kilos. Et donc ça m'arrive d'avoir des plus grandes que moi, mais aussi des plus petites, souvent des plus petites. Je sais pas comment c'est possible, mais... mais et du coup, bah, c'est sûr que ça, c'est pas la même chose. Les plus petits, ils ont tendance à énormément rentrer. Du coup, là, je vais déployer plutôt une box à distance. Mais pourtant, moi, j'aime bien plutôt avancer. Mais encore une fois, s'il y a quelqu'un qui est trop, qui avance... Enfin, franchement, je pense que plutôt...
Ça dépend de l'adversaire.
Je dirais que je suis plutôt adapté. Ouais, moi, je m'adapte beaucoup. Je m'adapte beaucoup quand même. Je suis pas...
Et tu parlais des catégories. Comment tu gères une diète avant un combat?
Ça c'est parce qu'il veut se lancer dedans, ça, vraiment, c'était pas dans les questions, ça, c'est juste...
Ah ouais, vraiment, franchement, il n'y a pas de... Comment dire? J'ai toujours pas trouvé de vraie solution, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Genre, déjà, quand j'étais ado, mes premières compètes, c'était n'importe quoi, je savais pas quoi faire. En plus, t'étais ado, moi, je me souviens, tous les midis, je mangeais un grec. Je fais comment? Et du coup, le jour d'avant, je mangeais rien. Puis, genre, j'allais courir le matin, j'arrivais comme ça à la pelée, c'était ridicule. Et en fait, maintenant, bon, tu commences à comprendre comment ton corps y perd. Moi, je conseille en général de ne pas être plus de 3 kilos au-dessus de ta caté, ça ne sert à rien. Ça, enfin, franchement...
Et ben, on va faire une première petite pause musicale dans Radio Campus, dans CLV sur Radio Campus Paris. Il est 20h17 et tout de suite, c'est Minimum ça de Dr Yaro.
Ah, c'est bon.
Chérie, moi, j'ai...
Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5.
Tazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez, pina cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention.
Chérie, en vrai, j'ai reçu les contrats, donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse.
Je suis pas mauvais,
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 je suis pas mauvais.
Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5.
Bina Cotazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez, Bina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention.
Justice de Dieu, y'en a un, tu peux laisser tomber Boumara. J'ai dit justice de Dieu, y'en a un, repos bien mérité pour moi.
J'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
non, j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais,
j'suis pas mauvais.
Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5.
C'était Minimum ça de Dr Yaro. Vous écoutez CLES sur Radio Campus Paris.
CLES.
Et alors, on va reprendre notre petite interview avec Maïmara. Donc toi, aujourd'hui, tu cumules principalement des titres en assaut. Et le week-end dernier, tu as réalisé ta toute première finale en championnat de France combat en série B. Et je crois que ça s'est plutôt bien passé, mais j'attends confirmation. Raconte-nous tout.
Ouais, je l'ai eu au téléphone, je crois que c'est bon, c'est passé. Non, j'ai eu, en gros, bon, c'est mon deuxième titre en combat, mais donc l'organisation des combats en boxe française, c'est vraiment... Il y a la deuxième série, puis la première série.
Okay.
Deuxième série, c'est vraiment les tout, voilà, débutants un peu amateurs et tout. Et une fois qu'on a ses points, on monte en deuxième série. Donc, étant championne l'année dernière, bah, je suis montée en première série. Et là, il y a les Elite B et Elite A. Donc, Elite B, c'était la semaine dernière. Et j'ai gagné, donc très contente.
À l'unanimité, bravo. En plus, non ?
Non, majorité 4-1.
Ah, ça ouais, va, ah, ça va. Quand même.
Ça reste honorable.
Bon, après, moi, je pense que... Moi, je sais que j'ai gagné, ça me va.
C'est le principal. Cette fois-ci, elle n'était pas nulle, en face.
Non, elle n'était pas nulle. Elle était... Ah, je peux pas parler mal, mais elle était embêtante.
Ah, embêtante.
Voilà.
Et alors, comment on se prépare mentalement, physiquement, pour une telle compétition, là, notamment, bah, pour le... C'était quoi ? C'était le 20... Non, c'était le combien, la date exacte de ton combat, là ?
C'était le 1er février.
Ouais. Bah oui, alors, comment tu t'es préparé les jours avant, mentalement, comment t'as aménagé ton calendrier pour te mettre dans ta bulle, justement, parce que tu parlais tout à l'heure de, bah, il faut être prête le jour J, parce que t'as 10 minutes, il faut que tu sois prête. Donc, comment tu t'es préparé, là, pour ces premiers combats ?
Bon, physiquement, il n'y a pas de grande... Il n'y a pas de secret, hein, défractionner sac, défractionner piste, essayer vraiment de mettre de l'intention et de l'envie à chaque entraînement parce que on peut pas en avoir autant, enfin on vit pas d'un sport où on est payé ou quoi que ce soit, enfin bon, il y a très peu de sports, hein, dont on peut vivre correctement, mais là pas du tout, donc forcément je peux pas faire autant d'entraînement que ce que je voudrais, et donc il faut être absolument concentré à chaque fois. Avoir envie de penser au fait que voilà, on veut découper le sac à chaque coup, on veut,
mais là quand même pour une finale en championnat de France, tu gagnes 0 euro malgré la victoire, c'est
là,
quand même ou pas?
Là non, vraiment les élites B, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est déjà un niveau qui est assez élevé, mais on gagne rien à la fin, c'est vraiment à partir des élites.
C'est même pas de sponsor
alors ça dépend de si on a des sponsors ou pas, mais même de manière générale, les sponsors en savate, ça va être vraiment plus des équipementiers qui vont te donner des équipements, etc. Enfin, ouais, des gens pour qui tu fais des pubs et toi, tu vas avoir des produits gratuits. Donc ça, c'est cool, mais c'est vrai que non, aujourd'hui, on ne gagne pas trop d'argent. Mais en élite A et du coup en asso, quand j'étais championne de France, oui, à chaque fois, il y avait des primes qui tombaient pour les France, puis ensuite pour les Europes ou mondiaux. Et donc là, c'est ce qui m'attend si je gagne, j'espère, les étiquettes A
pour toi.
En avril.
Et du coup, globalement, ton quotidien, enfin, la boxe française, elle prend quelle place dans ton quotidien ? Et qu'est-ce que t'as prévu pour la suite ? Parce que du coup, moi, je sais que du coup, t'avais prévu de gagner le combat depuis longtemps, t'as réussi, donc ça, c'est trop bien. Et donc, quel espoir t'as pour les séries A ou autres ?
En élite A, encore une fois, comme je suis dans une catégorie, il n'y a pas trop de monde, je suis encore une fois en finale directe. Bon, ça, moi, personnellement, ça ne me ravit pas, puisque on s'entraîne toute l'année, c'est aussi pour combattre.
Ouais.
Donc, j'ai qu'un seul combat qui m'attend. Je connais mon adversaire, enfin, je ne l'ai jamais rencontré sur le ring, mais je l'ai beaucoup vu sur des compétitions, etc. Donc, je connais son style, je pense que. Enfin, voilà, j'ai les éléments qu'il me faut pour gagner. Après pour la suite, normalement, si tout se passe bien, si j'arrive à avoir ce titre, ça veut dire qu'il faut enquiller sur les mondes, donc il y a les qualificatifs mondes, puis ensuite une finale qui va être faite n'importe où. Bon, là c'est vraiment si je gagne. Donc ça, on sait pas du tout. Et après ça, ça fait déjà 4 ans que je suis à fond, et que ça veut dire que organisation du quotidien, c'est quoi, c'est 1 à 2 entraînements par jour. On n'est pas payé, je le rappelle. Donc moi, il y a un moment où je me suis dit, bon, peut-être l'année prochaine, je me calme un peu.
Parce que t'as fini ton master de géographie, ouais, il me semble. Et, et du coup, par rapport au sport de combat, par rapport à la boxe française, vous savez que c'est pas un sport qui est très médiatisé et qui rapporte pas non plus d'argent. Qu'est-ce que toi, t'as prévu de faire avec la boxe, ou qu'est-ce que tu pourrais proposer à la Fédé, en fait, pour que ce sport ait plus de valeur aux yeux des gens, tu vois?
Je pense que déjà ils font des efforts déjà au niveau de la communication depuis un an ou deux. Je pense qu'il y en a, faut en fournir davantage pour revaloriser les champions qu'ils ont, Il y a des gens qui ont fait des choses incroyables au sein de leur discipline et qui ne sont pas du tout valorisés. Je suis reconnue, mais elle a eu, mais, je sais pas, des milliers de titres. Elle a été peut-être pendant 16 ans de suite championne de France. Et bah, c'est dur de la voir, de la retrouver. Enfin, en fait, il faut... Enfin, y a plein de champions comme ça qui ne sont pas tout à fait reconnus en boxe française. Et en plus, qui ont été très forts dans d'autres disciplines. Bah, par exemple, c'est le cas d'Alex Nicolas Barbosa. C'est le cas de... je sais pas, Megan Amoury, pareil, c'est une grosse championne. Anissa Mexen, qui est quand même surconnue, qui vient de la boxe française, qui a été dans mon pôle, qui s'est entraînée en boxe française pendant un certain temps.
Les athlètes, du coup, qui ont fait transition vers le kickboxing, là voilà. Où t'as un peu plus de sous.
Et toi, ça te dirait de... Enfin, tu voudrais d'aller faire
sur un autre.
Transition kickboxing, Muay Thai.
J'ai très envie de faire... Franchement, j'ai très envie de passer à d'autres sports. Plutôt kickboxing, je sais pas trop pour Muay Thai, et plus, bon, on verra. Mais... Bon, c'est quand même un quotidien où on se fait taper dessus tout le temps.
Ouais,
je sais pas, il y a un moment où j'ai envie de faire une pause. Je me dis, l'année prochaine, pause. Peut-être je vais rester dans le milieu en faisant juge-arbitre, puisque là, j'ai passé mon... J'ai été juge-arbitre cette année, j'ai passé le diplôme. Monitorat aussi, donc je pense que je vais rester dans le milieu l'année prochaine, mais ça va être cool. Et puis, je laisserai un peu plus de place aussi pour ma carrière pro, puisque géographie, ça implique souvent qu'on doit voyager. Et donc, je vais en profiter pour faire des missions terrain à droite à gauche, comme j'aimerais. Et peut-être venir un peu plus tard, faire du kick, reprendre peut-être la savate, aller chercher le titre européen en combat. Si, puisque, voilà, j'imagine que peut-être ce sera le seul qui me manquera. Donc,
Eh ben merci beaucoup Maïmara pour ces quelques minutes avec nous vraiment et on te souhaite tout le meilleur et on espère qu'au mois d'avril tu vas gagner ton combat.
Ouais, voilà, j'espère aussi hein.
En tout cas,
pignon
avec toi et on enchaîne avec une deuxième pause musicale, c'est Lunch de Billie Eilish et on revient direct. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Get enough, I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. I said I bought you something rare, and I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair, and I'm pulling up my hair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying. Hard not to overeat. You're just so sweet.
Thank you.
c'était Lunch de Billie Eilish. Et après cette interview avec Maïmara, nous allons faire une petite table ronde sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Êtes-vous emballés, les amis, par cette nouvelle formule ? Donc, je le rappelle, il y a désormais une poule unique, un championnat unique avec 36 équipes. Plus d'équipes reversées en Ligue Europa comme avant. Et désormais, donc, il y a les 8 premiers qui sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Et les équipes classées entre la 9e et la 24e place s'affrontent lors d'un barrage pour valider les derniers tickets pour les 8e. Les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées. Thomas, on va commencer par toi. Comment tu as accueilli cette nouvelle formule ? Et après 4-5 mois de compétition, qu'est-ce que tu en penses ?
J'étais pas fan et je le suis toujours pas. C'est simple parce que moi je suis quelqu'un, j'aime quand les choses restent comme elles sont. J'aime pas le changement. Mais pourquoi ? Parce que la Ligue des Champions, c'était on attendait les quarts de finale, la phase finale pour voir des gros matchs. Là, ok, on est tous contents, on voit des gros matchs, ça fait un an. Mais dans 10 ans, on aura vu que des Real Bayern en poule quand on va arriver en quart. Plus de sensations, plus rien, plus de frissons, c'est un match, ça va devenir des matchs...
T'as peur de la lassitude de qu'on se lasse de ces affiches-là ?
Mais qu'une affiche soit banale. C'est que avant c'était, il y a Bayern-Real Madrid, il y a PSG-Barça...
Mais tu parles de la phase de poule, parce qu'au final, en quart de finale, on les retrouve tout le temps, ces équipes.
Oui, mais si on les retrouve en phase de poule et en phase finale, au bout d'un moment, on va être lassé. Avant, c'était, on les retrouvait souvent en phase finale et on était content de les voir. Si... Dès le mois de septembre, tu tombes sur des grosses affiches. Ok, sur les 2-3 premières années, on va être content parce qu'il y a du nouveau, il y a des affiches qu'on n'a pas vues. Cette année, PSG Atletico, c'était rare. Maintenant, qui dit que l'année prochaine, PSG Atletico encore, et l'année d'après encore. Après, ça va être lassant.
Alors, moi qui suis aussi pas mal le foot, mais peut-être un peu moins que Thomas, quand il y avait des poules, je trouve que j'arrivais mieux à suivre. J'avais des repères et je savais qui était dans quelle poule. Je savais quelles étaient un peu les grosses surprises. Un peu ce qui se passait dans chaque poule. Là, j'ai regardé quelques matchs de près ou de loin, mais je trouve que c'est beaucoup plus dur à suivre et j'ai moins d'emballement parce qu'il y a moins de repères pour justement les gens comme moi qui suivent à moitié, quoi.
Ok. Et toi, Karl, t'en as pensé quoi ?
Mitigé aussi, parce que je me dis, je pense que passé l'effet de surprise pour les équipes, on va retourner dans une forme de normalité et on n'aura plus cet emballement autour de la dernière ou des deux dernières journées. Les deux dernières journées étaient hyper intéressantes pour savoir si le PSG et City allaient passer à la trappe ou pas. Et je pense que les équipes n'étaient pas préparées à ce nouveau format, ne savaient pas à quoi s'attendre. Je prends l'exemple du PSG, mais les premiers matchs, Arsenal, ok, mais Gérone et le PSV, je suis pas sûr que l'année prochaine ils se referont avoir et ils attendront la dernière ou l'avant-dernière ou la dernière journée pour se sauver les fesses. Quand on voit qu'il y a des équipes comme le PSG, le Bayern, le Real ou le City qui sont pas dans les 8 premiers, je peux mettre ma main à couper que l'année prochaine il y en aura beaucoup plus qui seront dans les 8 premiers qui s'abstiendront de jouer des barrages en février-mars. Donc je pense que cette première édition a été spectaculaire parce que c'était la première fois, mais je pense qu'on va retomber dans une forme de lassitude dès l'année prochaine ou dans 2 ans. Et que ça aura beaucoup moins d'intérêt, quoi.
Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais franchement, j'ai bien aimé cette formule parce que j'ai trouvé que... Alors, au final, c'est vrai que les petites équipes, globalement, sont toutes éliminées. Enfin, il n'y a pas finalement beaucoup de surprises.
Brest, quand même.
Non, mais je veux dire, sur les équipes qu'on pensait éliminer au début...
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a OK Brest, mais sinon, sur les 24, globalement, on les aurait trouvés.
Il n'y a pas de gros qui...
pas de gros qui passent à la trappe, finalement. Mais moi, j'ai bien aimé cet effet de... jusqu'à la dernière journée, il y avait des enjeux. Et en fait, on se rend compte qu'au final, les places... le but, un but en plus, un but en moins, ça jouait énormément. Tu mettais un but en plus. Le match de Lille là, contre Feyenoord la dernière journée, il gagne 6-1. En fait, c'est dingue parce que tu suis le match et tu dis oh, encore un but et là il passe 8e, encore un but il passe 7e, encore un but il passe 6e et ça change totalement après leur calendrier pour aller en 8e, en quart.
Je suis d'accord, mais c'est l'effet de surprise parce que l'année prochaine, les clubs dès le début vont être à bloc et savent que le goal average ça va être très important et dès le début, ils vont pas dire ah, je joue comme le PSG. Gérone, c'est tranquille. Non, ils vont dès le début, les petites équipes entre guillemets. Ils vont essayer d'aller à fond et prendre des points et mettre des buts.
Je pense pas que tu prends l'exemple du PSG. Je pense pas que le PSG ait pris de haut aucune équipe. Mais je pense que c'était la découverte et je pense que c'est aussi une compétition lisse de course. Quand tu regardes ton calendrier, tu arrives en début d'année, tu sais que tu vas jouer 8 équipes. Et bah les petites équipes, elles savent déjà, globalement, bah là on va pouvoir essayer de prendre 3 points là, 3 points là, 3 points là. Moi je pense que honnêtement, c'est pas une formule qui désavantage tant que ça les petits. Bah on l'a vu avec Brest. Et notamment, bah surtout, il y a quand même 24 équipes sur 36 qui sont entre guillemets qualifiées, parce que je compte les barrages comme une qualification. Bah ça fait quand même 2 sur 3, ça reste beaucoup. Alors qu'avant, c'était... il n'y en avait que 16 sur 32, il y avait la moitié qui passait.
Oui, mais après, il y avait
Ligue Europa. Oui, d'accord, donc, mais ça n'a aucune saveur par rapport à la Ligue des Champions. Je pense que les équipes préfèrent jouer un barrage de Ligue Europa, de Ligue des Champions, que d'aller se faire éliminer après en 8e.
Non, je ne sais pas. Parce que, imaginons, on prend le cas de Brest, ils jouent le Paris Saint-Germain, directement après, c'est terminé.
Oui, mais c'est une fois dans leur vie.
Oui, une fois dans leur vie, mais peut-être qu'en Ligue Europa, ils vont peut-être passer un tour, deux tours, on ne sait pas. Moi, pour moi, je... Je suis pas fan. On va pas arriver à me convaincre, voir des gros matchs tous les jours, surtout tant de matchs, autant de matchs. Comment on fait pour suivre tant de matchs?
Moi, je comprends ce que dit Thomas, l'argument de Thomas de dire qu'on va faire une overdose de gros matchs, mais ça rejoint un peu le projet de Super League qu'il y avait, en fait. Mmh. C'est toujours les mêmes.
C'est la Super League de l'UEFA.
Je suis d'accord. Enfin, on va faire une overdose et au final, les petits entre guillemets, les petits matchs, contre le Red Bull Salzbourg, etc. Je suis sûr qu'ils vont nous manquer au final parce que on voyait des équipes qu'on n'a pas l'habitude de regarder.
Mais qui se surpassent dans ces événements-là. Mais là, vous allez me dire que la barrage de Ligue des Champions dans 3-4 jours, le Real Madrid City, ça vous fait pas quelque chose?
Mais aujourd'hui, mais parce que c'est la première édition, mais l'année prochaine, ça ne fera pas la même effet.
Mais je pense que j'essaye de mettre à la place des jeunes générations qui se mettent à suivre le foot, et on sait que maintenant on est dans un monde ultra connecté et tout. Je pense que les jeunes, en vrai, qui découvrent le foot, ils ont envie de ces matchs-là. Ils ont envie de voir que ça.
Non, mais le foot, c'est pas gros matchs. Parce que si on s'habitue à ça, dans 5 ans, un gros match ne sera plus un gros match.
Non, mais c'est une fuite en avant, en fait. Hein. Je trouve qu'on veut des gros matchs, on aura toujours de plus en plus de gros matchs, et le fossé va se creuser, même à l'intérieur des championnats propres. C'est-à-dire que le PSG surdomine déjà la Ligue 1, et c'était déjà le cas avant, ça le sera toujours au futur, mais même en Première Ligue, et encore en Première Ligue, c'est particulier, mais la Liga, la Bundes, et même la Serie A, l'écart va se creuser entre les 2, 3, 4 meilleures équipes, et les petites équipes qui sont en plus bas dans le championnat, et qui n'ont aucune chance de participer à la Ligue des Champions.
Non, parce vas-y Antoine.
Là, si on continue avec ce que tu dis, Esteban, de vouloir tout le temps voir les gros matchs, là, on va donner encore plus d'arguments à Florentino Pérez du Real, qui veut créer sa Super League. Et là, c'est sûr que si on considère que c'est les meilleurs matchs à voir et qu'il n'y a que ça qui vaut, là, c'est sûr qu'il va réussir son projet.
Non, mais c'est pas ça, c'est juste que... En fait, j'essaye de me dire d'un côté, de manière réaliste, le foot que nous, on a connu quand on était petits et que nos parents, nos grands-parents ont connu... En vrai, je pense que cette époque, elle est révolue. On ne reviendra jamais en arrière parce qu'aujourd'hui, c'est tellement de l'argent à outrance, qu'on pourrait reverser un peu à la boxe. Hein, moi, je dis. Mais c'est on est aujourd'hui dans un monde où c'est comme ça. C'est capitalisation à outrance. Et donc, on va jouer que sur ça. Et
il est là le problème.
On peut le regretter.
Ah, mais on le regrette. Après, moi, la nouvelle formule, je trouve pas que ce soit une connerie. À part, la seule chose que je reproche à la nouvelle formule, c'est ce fameux multiplex de 18 matchs. En fait, tu suis rien.
Voilà, c'est impossible de voir.
Tu regardes ton équipe, la grosse affiche qui peut y avoir, et c'est tout. En vrai, tu suis aucun match, et c'est pas possible de suivre 18 matchs en même temps.
Ouais, après, en vrai, moi je comprends un peu Esteban, puisque là le foot, il est en train de rechanger encore une fois, il a besoin d'une évolution de fou. Donc moi, ça m'étonne pas que la Ligue des Champions en fasse partie. Après, à tester, ça se trouve, ça va faire 2-3 ans, et puis vous retournez à un format un peu plus traditionnel, on va dire.
Ce serait bien, mais c'est en général quand il passe le cap, c'est très dur de revenir. On l'a vu au tennis avec la Coupe Davis, qui est décédée, PAL. Mais c'est. Non, en vrai, je pense que malheureusement, on reviendra pas en arrière. Après, donc là, vous allez. Donc après, si, il y a quelque chose que je regrette et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est que dès les barrages, on peut avoir des affiches 100% d'un même pays.
Oh, ouais.
Ça vous dérange pas qu'il y ait PSG-Brest en.
Ah, si, quand tu vois que dans le même groupe de tirage au sort, il y avait Monaco, PSG, Brest et le Benfica. Ah, moi, je trouve ça écœurant.
D'ailleurs, les Brestois l'ont regretté. Ils ont dit évidemment. On joue la Ligue des Champions pour jouer les étoiles.
Mais après, c'est le nouveau format.
Oui. Parce que avant, ça pouvait pas arriver.
Oui, ça pouvait pas arriver, mais le nouveau format impose. Enfin, on peut pas. Parce qu'ils font par rapport à la 15e. Le 15e affronte. Enfin, ça, j'ai pas bien compris. Mais.
C'est un peu bizarre.
Ouais, c'est un peu bizarre. Je comprends pas et. cherche même pas à comprendre, je pense, parce que moi, je suis un vieux de la vieille et je suis pas...
Non, on a compris.
Voilà.
Mais comme j'aimerais... Vas-y. Ouais, je voulais juste
le mot de la fin
truc.
Pour Antoine, vas-y.
Il y avait Karl qui nous disait que le PSG c'était sûrement pas assez préparé contre Gérone et les prenait de haut et tout ça. Je sais pas si t'as raison, peut-être que t'as raison, mais moi je pense que le nouveau format, il a un avantage, c'est que ils ont moins le temps, enfin les grosses équipes ont moins le temps de se préparer contre tous leurs adversaires. Et avant, ils savaient, ils avaient trois adversaires, ils les jouaient deux fois, ils pouvaient se préparer tactiquement. La tactique, ça fait pas tout, mais quand même. Et là, ils jouent plein d'équipes, je pense qu'ils y vont un peu plus enfin, c'est pas qu'ils y vont à la légère, c'est qu'ils n'ont pas le temps de tout préparer et que du coup, il y a plus de surprises possibles. Donc, moi, je pense que les surprises, ça va peut-être rester encore quelques années.
Bah, merci les amis pour ce petit débat. Et maintenant, on va passer à quelque chose qu'on devait faire en janvier. Malheureusement, on n'a pas pu être là. Vos vœux personnels, les plus chers de 2025. Donc voilà, donc, je vous ai demandé à chacun de me donner trois vœux. Donc on va démarrer par qui ? Par Karl, le regard évasif. Dis-nous tout. Est-ce qu'on fait quoi ? On fait direct les trois chacun ou on fait un tour de table ?
Un chacun ?
Allez, un chacun. Ton premier vœu.
Premier vœu, vœu foot. Ça va vous surprendre, mais le maintien de Saint-Etienne.
Déjà, voilà. C'est mort.
C'est marrant. On abandonne. Non, en vrai, c'est franchement mon vœu le plus cher parce qu'à peine remonté, ça serait bête de redescendre.
Surtout avec les nouveaux propriétaires.
Voilà, exactement.
Ninon.
Gagner mon tirage au sort pour aller voir la finale de Roland Garros parce que j'ai participé et ça me ferait bien kiffer d'aller voir un match, enfin une finale surtout, parce qu'en vrai, c'est quand même exceptionnel.
Une finale de Grand Chelem, j'avoue, ça va être dingue. Antoine ?
Bah moi, j'ai le malheur, comme Karl, de soutenir une équipe qui joue le maintien cette année, Manchester United. Du coup, je souhaite le maintien humblement.
Bon, ça va, normalement, ça devrait se réaliser. Thomas,
bon, mon équipe ne joue pas le maintien, on va rester dans le foot. Le rêve d'un supporter parisien, gagner la Ligue des Champions.
j'ai pas osé le mettre dans les vœux, parce que c'est une utopie, c'est pas possible.
C'est un rêve.
Moi, mon premier vœu, c'est de revoir Alcaraz gagner Roland Garros. Ça, c'est mon premier vœu, moi. Karl, deuxième vœu.
Pour revenir sur ce dont on parlait au début de l'émission, tournoi Les Six Nations pour la France et si possible le Grand Chelem. J'y crois pas, mais c'est un vœu.
Ça passe par demain déjà, donc si on prend une branlée demain, ça paraît compliqué.
C'est foutu. Voilà.
Ninon, ton deuxième vœu.
Moi, là, c'est un peu plus personnel, mais réussir mes études et avoir un travail en septembre, je suis passée une annonce. Mais voilà, le sport, c'est important. Et le travail aussi, hein, je fais passer un petit message.
Mais t'as raison. Mais les amis, contactez Ninon, on vous donnera son mail. Antoine, ton deuxième vœu.
Moi, mon deuxième club, c'est Nancy, parce que je viens de là-bas. Et SNL, qui est premier de national. Bon, on est en national, mais on est quand même premier cette année, ce qui est mieux que d'habitude.
Donc ton vœu, j'imagine, c'est que ça remonte en Ligue 2.
On va monter en Ligue 2, mais je l'espère quand même. Enfin, j'espère que ça continue, parce que le national, on sait que ça peut basculer à n'importe quel moment.
Thomas, ton deuxième vœu ?
Sport de combat, MMA. Super combat entre Francis Ngannou et le GOAT John Jones. On va demander à monsieur Dana White, si c'est possible, s'il accepte ma demande, mais ça serait magnifique.
C'est toi personnellement.
Moi, je donne de la force dans ce vœu.
Moi, mon deuxième vœu, c'est j'aimerais vraiment, pour la beauté de la chose, que Lewis Hamilton remporte un titre de champion du monde avec Ferrari. C'est ton troisième vœu.
C'était mon troisième.
C'est pas grave, on a le même vœu. Karl, ton troisième vœu.
Mon troisième vœu, ça serait qu'un Français, ou une Française, mais je pense que c'est plus probable un Français, un tennisman français accède au dernier carré d'un grand chelem. Je sais que c'est un vœu, c'est un souhait.
Ouais, bien sûr.
Bah, voilà,
il y a plus de chance, je pense, que le PSG gagne la Ligue des Champions qu'un Français gagne en demi d'un grand chelem.
Moi, je rejoins le vœu de Karl. En vrai, un petit mon fils en quart de finale. J'ai abusé.
Non, dernier carré, c'est
donc demi-finale.
Ouais, mais il a fait les 8, il a fait les 8e, il a arrêté.
Non, mais mon fils, moi je misais pas sur mon fils, je misais
Arthur.
Sur un.
Arthur,
sur un malentendu. Ou Hugo Humbert.
C'est un peu dur.
J'y crois pas.
MP Chip et Ricard ou Wimbledon, moi j'y crois totalement.
C'est le seul tournoi où PSP a fait quelque chose.
Antoine, ton troisième vœu.
J'allais vous dire que United gagne l'Europa League, mais c'est pas original. mais en vrai, non, que les frères Lebrun continuent leur épopée et qu'ils arrivent encore à monter dans le classement. Là, je crois qu'ils sont encore... Enfin, Félix qui est encore 6e ou 5e, qui continue à monter. Pourquoi pas 3e, 4e. Après, je sais que les premiers, ils ont plus d'avance, mais tout est possible avec eux.
Thomas, Du coup, ton dernier vœu.
Ouais, c'était Lewis Hamilton.
Je comprends. Et moi, mon dernier vœu, c'est un vœu NBA. J'aimerais franchement, honnêtement, que les Lakers remportent le titre cette année avec LeBron James, 40 ans, et Doncic, du coup. Anas, gros big up à toi en Real parce que c'est que c'est dur. Mais ouais, ce serait dingue parce que LeBron James, 40 ans, le mec, 40 ans, et cette nuit encore, il a mis 42 points, 17 rebonds face aux Warriors. Enfin, c'est juste dingue. Enfin, genre, on n'a jamais vu ça, donc... J'espère vraiment qu'il pourra obtenir une cinquième bague, mais ça paraît très compliqué.
C'est comme la Ligue des Champions.
Oui, c'est totalement
comme les
utopique.
Français dans le dernier carré. Bon,
c'est des vœux.
C'est totalement utopique, mais voilà. On va se retrouver juste après une dernière pause musicale pour le grand quiz de Antoine. Et tout de suite, c'est Espresso de Sabrina Carpenter. Il est 20h49 sur Radio Campus Paris, vous êtes bien dans C'est le S et c'est l'heure du grand quiz présenté par notre Antoine National. On t'écoute, c'est sur quoi ce soir ?
Très bien, alors c'est sur les sports qu'on connaît assez peu.
Okay.
Donc vous allez devoir deviner de quel sport je parle. Donc je vais vous donner 3 indices par sport au compte-gouttes. Je vous donne d'abord un premier indice si vous trouvez très rapidement, donc vous avez 3 points. Si vous trouvez au deuxième indice, vous avez 2 points. Et si vous trouvez au troisième et dernier indice, vous avez qu'un seul point parce que c'est plus facile. On instaure une petite règle pour que ça se passe bien. Une seule réponse par personne pour chaque question, parce que sinon on spamme et c'est trop facile.
Pour chaque indice aussi ou... enfin,
Non,
pour
chaque question.
Allez, on va tolérer en fonction des questions. On pourra faire par indice.
On a tous donné une réponse.
On verra. On verra, mais en tout cas, on peut pas spammer les réponses de réfléchir un peu avant de parler. Donc, premier sport, on a l'habitude de le pratiquer en extérieur, dans de grandes étendues d'herbe en été, en tout cas quand il fait beau. mais en tant que sport professionnel, il se pratique tant en extérieur qu'en intérieur. En extérieur, ça se joue sur 100 mètres de long et 37 mètres de large.
Ok, j'ai...
Ah, Karl qui a une réponse, ouais.
Du hockey.
Ah, non, c'est pas du hockey. Donc,
l'épervier.
Non, c'est pas l'épervier non plus. C'est un sport qu'on a tous déjà pratiqué, qu'on considère pas forcément comme un sport.
Ah, mais... ok.
On le pratique, mais en tant que loisir. Mais ça existe aussi en tant que sport professionnel. Bon, vous n'êtes pas obligé de donner une réponse.
Il n'y en a plus ?
Non, c'était le premier. Hein.
Ça
va. Bon, parfois, il y a quelques indices dans un seul.
La balle au prisonnier.
Non, c'est pas la balle au prisonnier. Les séquences de jeu ne durent que 10 secondes. Donc, en gros, on a 10 secondes pour marquer. Je ne sais pas si on appelle ça un but, mais en tout cas, on a 10 secondes pour marquer. Et si on ne marque pas, ça passe à l'équipe adverse. L'offensive passe à l'équipe adverse. Et ça se joue en équipe de 7. Ça, c'est le même indice.
En équipe de 7, sur du gazon.
Sur de l'herbe.
Mais ça se joue sur un terrain, hein, vraiment, avec des limites et tout.
Ouais, il y a des limites, ça se joue
100 mètres de long, tu dis.
Ça, c'est pour l'extérieur, mais ça se joue aussi en intérieur. Là, j'ai pas les.
70 ou.
7 contre 7.
Mais c'est une activité qu'on a tous déjà pratiquée. Hein.
Ouais, tout ça.
À l'école, genre ?
Non, dans la vie. En tant que loisir.
Ah ouais ? C'est rare que je me retrouve à faire une activité 7 contre 7 sur 100 mètres de
long. Ah non, mais on joue pas forcément à 7 contre 7.
On peut jouer. À deux.
Parce que là, il y a des règles, oui. Mais nous, on joue sans règles. Bon, je vais vous donner un dernier indice.
Vas-y.
À ses origines, il se pratiquait donc en tant que loisir avec un moule à tarte.
Hein ?
Du Ultimate.
Ultimate, oh, bravo. C'est le frisbee, quoi.
Mais c'est génial. C'est
Ultimate
sport,
frisbee.
Moi, j'adore.
Ah oui.
Un des seuls sports qui se joue en mix, d'ailleurs.
Et exactement, ça se joue en mixte. Ça vient des années 30 où sur une plage de Californie, un jeune couple s'amuse à envoyer une boîte de pop-corn et ils se rendent compte que ça marche pas trop. Du coup, ils s'envoient un moule à tarte et qui vole mieux et ils l'ont baptisé Flying Cake Pans sur les plages de Santa Monica. Et après, dans les années 60, ça se pratiquait sur les plages toujours, un peu dans la période hippie dans les années 60. Aux États-Unis. Et aujourd'hui, même si on le connaît surtout en sport de plage, il est aussi devenu un sport sérieux, qui se joue de manière mixte et aussi auto-arbitrée, donc sans arbitre.
C'est génial.
Stylé.
Je sais pas trop si ça fonctionne bien, mais normalement.
Il y a des bagarres à tout. Du coup, un point pour Ninon.
Un
point pour Ninon.
Et d'ailleurs, la France a participé à ses premiers mondiaux en 2022 en Angleterre, terminée 6e sur 8. Ah. Donc on espère.
C'est pas terrible.
Mais il fallait se qualifier. On s'est qualifié.
Ah,
c'est déjà bien. Deuxième sport. Alors là, ça va être plus court. Les meilleurs joueurs et joueuses mondiaux de ce sport sont égyptiens. Bon, là, c'est pas un indice énorme.
Ah ouais.
Mais c'est un sport déjà plus connu. Hein. Et les meilleurs sont les Égyptiens. Bon, je vais peut-être passer au deuxième indice. C'est un des 5 sports qui va devenir olympique au JO de Los Angeles en 2028. Si vous les avez déjà vus passer. Donc c'est un sport quand même qui est bien établi, puisqu'il rentre au JO. Donc c'est un sport qu'on connaît. Hein. Ah non, c'est pas le baseball. Mais le baseball, c'était un des sports qui arrive en 2028, mais c'est pas ça.
Il y a
Donc... Les autres sports.
Red Bull aussi, non ? Qui rentre sur les.
Je peux vous dire les autres sports qui arrivent, à part celui-là, du coup. Il y a le baseball, il y a aussi le flag football, qui est moins connu, le lacrosse et le cricket.
Et il y a le dernier.
C'est comme du foot américain, non ? Non, ça c'est le flag football.
Non, c'est le flag football, ça. On va passer au dernier indice. C'est un sport de raquette.
Le padel ?
Non, c'est pas le padel. C'est un sport de. On n'a pas beaucoup de sports de raquettes non plus. Il y en a peut-être 5-6 qui sont bien établis, on va dire.
Oh la galère.
Et ils rentrent au JO. Ah, vous avez pas suivi les sports qui rentrent au JO.
Non, la honte.
On n'a pas fait notre travail.
Il est connu.
Il est très connu.
Hein c'est pas padel.
Si on cite les sports de raquettes, on a le tennis, on a le ping-pong, badminton. Et pour moi, c'est le quatrième qui vient juste après. Qui vient avant le padel.
Tennis de table.
Ah là, je sais pas si vous méritez un point.
Attends.
Il en mérite rien.
Ah là, ça compte pas, j'ai numéré les...
Je crois qu'on va donner notre langue au chat.
Hein. Ouais, je crois qu'il faut donner sa langue au chat. À moins que Karl ait un éclair de génie.
Une raquette.
Un autre sport de raquette.
Bon, je vous le dis, c'est le squash.
Oh,
tu l'as dit ?
Bah oui.
Je l'ai un peu murmuré.
Ah, mais il fallait parler mieux dans le micro, peut-être. Désolé, bah, j'ai pas entendu.
Un point quand même à Maïmara.
Oui,
point.
On lui donne quand même un point.
Elle le donne à Nino.
C'est fort. Le complot.
2-0. Mais ça va, elle a 50 points de retard.
Ouais, clairement, je suis tellement loin que.
Finalement, bah, j'avais écrit c'est le grand oublié des sports de raquettes. Bah, vous me l'avez prouvé parce que vous l'avez bien oublié.
J'en fais tous les mardis, la honte.
Oh là là.
Donc c'est un. Bah, ah oui, c'est vrai.
Ah oui, vraiment.
Du squash ?
Ouais. Et, bah, c'est super, hein, franchement.
Ouais, ça a l'air sympa.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est un terrain de jeu donc entouré de murs ou de parois vitrées. Et ça se joue avec une petite balle noire en caoutchouc. Et d'ailleurs, c'est un des sports les plus dépensiers en calories. Si on prend la même durée, on bouge énormément, même si on est sur la même zone que son adversaire. Et on peut le reconnaître à sa raquette tout en longueur, un peu en forme de goutte d'eau. Et d'ailleurs, il y a certains fun facts, il y a certains joueurs de badminton qui jouent souvent avec des raquettes de squash pour s'entraîner, parce qu'elles sont plus lourdes, et comme ça, ils ont plus de puissance, et puis ça permet de renforcer musculairement aussi. Et donc, il fait son entrée en 2028 au JO.
2-0 là pour Nino.
2-0 pour Nino. Allez, on enchaîne. Là, c'est un sport où les meilleures nations sont, selon la dernière Coupe du Monde, hein, c'est subjectif, le Brésil, le Portugal, l'Italie, mais aussi des nations comme l'Iran, la Biélorussie et Tahiti, qui n'est pas un pays indépendant, mais non, pas le surf. Mais Tahiti, ça devrait peut-être vous mettre un peu la puce à l'oreille.
Hein. C'est un sport dans l'eau, ouais, dans l'eau, c'est nautique.
Je vais pas répondre à toutes les questions, mais c'est pas forcément dans l'eau. Hein.
Ah, okay.
Est-ce que vous avez une idée ou on passe au deuxième indice ?
Deuxième.
Ça se joue à 5 joueurs contre 5 joueurs, avec un ballon, et il y a une dimension assez créative. Hein. C'est un sport assez créatif, pas très mécanique.
Est-ce que c'est le volley où ils utilisent...
Le beach volley ?
Non, c'est pas le beach volley.
Au pied, là.
Thomas et Karl qui n'ont toujours pas d'idée.
Ils sont ailleurs.
De ouf, ça.
Le truc avec le pied, là.
Ouais, une sorte de volleyball, mais c'est avec un truc, là.
C'est
une petite balle.
Non, on n'est pas sur le bon. Bon, je vais vous donner le dernier indice. Le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde, c'est les Seychelles.
Wow. Donc là, c'est quoi cet indice ?
Là, ça m'aide. Là, hein. Ah, non, ouais. J'ai l'impression que c'est l'inverse.
C'est un peu dur. Non, c'est pour dire que ça peut pas se faire n'importe où. Enfin, oui. Vous le saviez déjà avec Tahiti, mais qu'est-ce qu'on connaît des Seychelles ?
Oui, mais il faut que ça soit commun. T'as Biélorussie quand même. C'est ça le problème.
Sur quel type de terrain ? Il y a pas que l'eau.
Du sable. Du sable.
On peut jouer, oui, sur des plages, sur du sable.
Bravo.
Donc c'est beach quelque chose.
Du football sur du.
Ah, du beach soccer ?
Bah voilà, du beach soccer. Bon, il fallait le mot.
Demi. C'est tout pour moi.
Bah oui.
Tu me donnes son point, comme ça.
Ah non, Thomas, là t'as mis.
Non, ça fait 3-0. Ça fait 3-0.
Non,
t'as pas dit beach soccer ?
Non, mais j'ai dit le foot sur le sable.
Ah bah tu vas aller dire en anglais. Cette partie elle est pour
nous. Non, mais vous savez pourquoi il fait ça ?
Non, mais là t'as juste écrit.
Je suis en concurrence avec lui.
Ouais, parce qu'en fait, ça me fait. Moi, Nino, c'est pas un danger.
C'est clair.
On a le temps pour une dernière question très rapidement.
Ouais, allez, on va faire une dernière question.
Dans une minute, il faut qu'on rende l'antenne, malheureusement.
Waouh, ça va être short.
C'est un sport qui a plusieurs noms, notamment dans la cour d'école. On lui donne plusieurs noms quand.
Épervier.
Le chat.
Le chat ?
Ouais, je sais pas.
Bravo, c'est le chat.
Énorme.
Parce que c'est un vrai sport, c'est le World Chase Tag. Les Américains sont très forts, on se poursuit et on doit se toucher avec la main uniquement. Dans une infrastructure, avec, il faut sauter sur des trucs, on peut glisser.
C'est le parcours.
C'est très dur.
Et Esteban Che m'a dit on doit rendre l'émission. Fais-le.
Merci les amis d'avoir été avec nous ce soir. Merci Karl, merci Antoine, merci Nino, merci Thomas et merci Maïmara de nous avoir accordé ton temps. Les amis, nous on se retrouvera le vendredi 7 mars, noté dans votre agenda, de 20h à 21h sur Radio Campus Paris. D'ici là, portez soin de vous. Ciao, ciao.